Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 22h37 sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. On accueille Sabrina maintenant au 3921. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Olivier, merci à toute l'équipe de me recevoir et puis d'entendre mon histoire. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'échanger. Et puis, comme je le disais, on reste des passeurs de mémoire. Alors, quelque part, si on peut toucher quelques personnes encore ce soir sur nos histoires un peu atypiques de vie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, malgré tout, la vie, elle reste belle. Et qu'il faut avoir le courage de se lever tous les jours, au moins pour ce qu'on aime. Et c'est ça qui reste beau, quoi.
Exactement. Et garder le courage, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, ma chère Sabrina. Quel âge avez-vous?
Aujourd'hui, 39 ans.
D'accord. Mais
c'est vrai que mon histoire a commencé très jeune, quand j'ai rencontré mon mari à l'âge de 17 ans, où j'ai voulu très vite, parce que j'ai eu la chance d'avoir mon bac, mon permis. Bon, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir tout très, très vite dans cette vie.
Oui.
Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il avait 25 ans, c'était un beau jeune homme, grand, brun, yeux verts, qui m'a tout de suite plu. Et c'est vrai qu'on s'est très vite lancé dans une vie familiale et en travaillant très activement tous les deux. Nos enfants sont arrivés aussi très vite. Et malheureusement, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le déroule, mais très vite, on rentre dans le sujet.
Votre mari faisait quoi dans la vie?
Il était militaire de carrière. En fait, il était caporal chef de première classe.
D'accord.
À l'époque, militaire du rang. Hein, donc, c'était juste le premier grade. En compagnie de combat, il adorait son travail parce qu'il avait la chance en plus de faire ce qu'il aimait et d'être projeté souvent avec les casques bleus à nu. Donc, lui, c'était sa spécialité de s'occuper de toutes les populations. Donc, c'est quelque chose qui le touchait énormément d'être là, vous savez, pour ces fameuses souffrances comme on voit actuellement en Ukraine. Mais bon, parce que lui, il l'a énormément vécu. Vous voyez, quand je vois ces images-là, moi, ça me choque. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on vit, déjà, tout ce qu'on nous, on a déjà vécu dans nos familles. Est-ce que nous, on n'a jamais été épargnés, vous voyez? Et en fait, quand je revois certaines photos du Kosovo, c'est un peu ce qu'ils vivaient déjà, eux, à l'époque, quoi. Et lui, protéger justement ses femmes, ses enfants, être là pour la population, c'était quelque chose qui le motivait pleinement, en fait, dans cette carrière.
En tout cas, c'était un garçon, un homme engagé pour son pays. Et
C'est ça, puis il a eu cette particularité d'être engagé, en plus lui à 17 ans et demi, alors qu'il venait d'une famille, on peut le dire, notable, de parents banquiers, pas du tout dans le milieu. Il avait une autre vie qui aurait dû être tracée pour lui, bien plus confortable. Et donc, c'était vraiment un choix de valeur citoyen et de cœur, quoi.
D'accord. Donc, vous faites 3 enfants très tôt avec l'amour de votre vie.
C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a Romain qui arrive très vite en 2002, Maëva et Quentin qui s'enchaînent en 2005 et 2006. Bon, c'était pas spécialement voulu, hein. Mais du coup, ils sont là, on est contents, on a une grande famille. Moi, je travaille à plein temps, je suis agent commercial. Donc, ça va, on a une vie qui est vraiment stable. Vous voyez, lui, il part tous les ans, par contre. Parce que c'est vrai qu'il adore cette vie. Alors, moi, je suis pas très contente non plus, hein. Je vous cache pas que les premières années, vous dites rien. Mais après, c'est comme tout. Vous voulez avoir votre mari, les enfants. Vous voyez, on a une maison, on s'installe. Puis après, c'est normal, c'est aussi un sacrifice. Mais après, vous le comprenez, parce que vous aimez tellement votre personne aussi, c'est que cet homme, il est aussi comme vous l'avez aimé. Et quelque part, lui retirer aussi cette particularité-là de ne pas faire ce qu'il aime, c'est aussi de ne plus aimer. Parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui est dur à comprendre dans le monde civil. Mais moi, je viens d'une famille militaire sur 5 générations. Donc, je savais aussi dans quoi, quelque part, j'allais emmener ma vie.
D'accord.
Et encore, j'avais beaucoup de chance, contrairement à mes grands-parents et à ma mère. Moi, j'ai eu la chance d'être dans cette génération active et de travailler et de pas de rester à la maison, vous voyez, et d'avoir quand même une bouffée à côté d'oxygène qui me permettait d'avoir une vie sociale, quoi.
D'accord. Donc, c'était le bonheur.
Franchement, alors, j'aime pas comparer ça parce que c'est vrai que tout le monde rigole, mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir la petite maison dans la prairie au niveau de ma vie jusqu'à l'âge de mes 25 ans où j'avais tout pour être heureuse. Un mari merveilleux, des enfants qui ne pouvaient pas plus me combler, un travail qui me plaisait. Vous voyez, tout allait bien, quoi. C'est vrai qu'on a frôlé le bonheur pendant pas longtemps, mais pendant 3-4 ans, je peux dire qu'on a été les plus heureux du monde. Vraiment, dans les 7 ans où on s'est côtoyés, mais vraiment les 3 dernières années où on avait un épanouissement complet de nos vies affectives, sociales. Et là, c'est vrai que c'est là où est encore plus dure la chute, quoi.
Parce que, en fait, votre mari, il va lui arriver quelque chose au Liban, c'est ça ?
Voilà, un drame, c'est que donc du coup, il part, donc il enchaîne, donc je vous dis, hein, toutes les opérations tous les ans. Hein, donc il multiplie les Kosovo, les Libans, ex-Yougoslavie, etc. Et c'est vrai que la dernière année, en fait, j'étais pas très contente parce que c'est vrai que c'était l'aboutissement. Vous voyez, je voulais au moins qu'il reste quelques. Alors, c'était normalement la dernière opé, comme à chaque fois. Et donc là, il part en janvier, tout se passe plutôt bien. Arrivé février, commence à avoir une certaine complexité dans la dernière semaine. Où je le trouve bizarre, vous voyez, quand il parle, bon, ben, c'est pas grave. Et puis à l'époque, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais on n'avait pas le réseau comme on a actuellement. Donc nous, on s'écrivait encore des lettres à l'ancienne, mais ce qui était très romantique, vous voyez, c'est vrai qu'on recevait. On avait très peu de connexions. Et là, c'est exprès, ce soir-là, on a eu une connexion extraordinaire. Il a pu passer une heure avec ses enfants. Et c'est vrai que c'est l'un des meilleurs souvenirs dont je me rappelle. Il neigeait chez nous. Donc, c'est vrai que alors lui, il mourait de chaud et nous, il faisait hyper froid. Et le lendemain, je devais passer mon concours de police parce que c'est vrai que j'avais eu envie d'un changement de carrière dans ma vie de femme. Et puis, étant donné que je lui avais quand même donné presque 7 ans de ma vie, vous voyez, à la maison, et c'est vrai qu'il m'avait énormément accompagnée et motivée, ben, vous voyez, un peu dans ce challenge de jeune femme, 3 enfants, comme quoi tout était possible. Vous voyez, rien n'était arrêté malgré les choix de vie qu'on avait fait très jeune et oui. Autres. Et donc, le 17 février, moi, je pars à Metz. Alors, le pauvre, il s'inquiétait plus pour moi, parce qu'il me dit « Comment tu vas faire avec la nounou, la neige, le boulot ?» Bon, bref, vous voyez, il était même plus triste pour moi quand on y pense. C'est vrai que c'est ce qui fait le plus mal. Et là, donc, moi, je passe mon concours tranquillement à Metz. En plus, une copine me rejoint. Alors, c'est que je le dis avec beaucoup de légèreté, mais c'est que c'est toujours avec le cœur serré au bout de 13 ans. Mais oui, j'étais plus stressée de me dire « Mince, j'avais acheté tout un équipement dans un grand magasin, style Ikea, voilà, hein, pour rééquiper notre maison, alors que j'ai toujours pas eu mon avance de solde. » J'ai essayé de le joindre pour lui dire que le concours s'était super bien passé, que j'avais réussi l'écrit, je rentrais à Épinal, et puis je dis « Oh, c'est bizarre, il me répond pas. » Et là, arrivé près de mon domicile, je reçois un coup de fil, et là... la descente aux enfers commence. C'est que j'ai son colonel, le lieutenant-colonel qui m'appelle et qui me dit que mon mari, il faut que je rentre chez moi, c'est urgent. Et vous voyez, très froid, très austère, sans aucune empathie ni autre. Et puis ben, tout de suite, moi je lui dis qu'est-ce qui est arrivé à mon mari, quoi. Et là il me dit j'ai pas le droit de vous dire au téléphone. Et il insiste, mais je lui dis écoutez, vous m'appelez pas pour me dire malheureusement ou me demander si je vais bien. On est au courant, vous voyez, malheureusement, c'est le coup de fil que personne ne veut avoir. Hein. Et là, il me dit clairement, ben, vous êtes dans votre domicile dans quelques minutes, nous arrivons avec la délégation. Et c'est vrai que de panique, moi, je raccroche et je dis non, vous venez pas chez moi, quoi. Vous voyez, parce que j'avais tellement peur et là, vous prenez le coup près, quoi. Vous dites, c'est bon, ils arrivent, c'est fini, quoi. J'arrive chez moi à mon domicile, je récupère comme mes enfants vite fait à la garderie, chez la nounou qui les gardait, et puis là vous attendez des minutes qui vous paraissent interminables, que vous savez pas ce qui vous attend, quoi. Et à un moment, ça sonne à votre porte, quoi. Et là vous voyez la silhouette de 3 militaires, une femme au loin, il y a une ou deux femmes qui les suivent en civil, vous ouvrez la porte et là, vous entendez les médailles qui claquent sur leur treillis. Ils sont officiels et là, ils vous annoncent que votre mari aurait eu un accident. Ils n'en savent pas plus, qu'ils vont se renseigner, qu'il ne faut pas paniquer, que voilà, vous n'en savez pas plus. Et là, vous êtes anéanti quelque part parce que vous ne savez pas ce qui vous arrive, quoi. Donc, on essaye de contacter le Liban. Ils nous disent qu'il aurait eu un accident, mais que tout va bien. Ils l'ont plongé dans le coma artificiel pour le préserver au maximum. Vous voyez, ils essayent vraiment, par contre, de motiver en disant « il n'y a pas de souci, tout va bien » et autres. Ils m'envoient une délégation. Donc, il y a des jeunes soldats, vous voyez, qui font comme une espèce de permanence chez vous pour ne pas vous laisser seul. Ils vous annoncent que l'assistante sociale arrivera demain, vous voyez, pour essayer de faire un espèce de protocole, une mise en place. Et du coup, moi, j'appelle mes parents, qui étaient aussi, eux, militaires à l'époque, mais à Montpellier. Donc, vous voyez, on avait quand même 900 kilomètres qui nous séparaient, oui. Donc pas évident. Et j'appelle la famille Nicolas, avec qui bah là, ça devient très compliqué et incompréhensible parce que déjà, eux n'avaient pas supporté son engagement. Et voilà, ils rejetaient déjà très fortement cette particularité de sa carrière. Donc, j'annonce avec le peu d'éléments que j'ai. Le lendemain, on revient les mêmes personnes et on m'annonce que je dois partir à Paris pour récupérer mon mari qui est juste blessé. Là, on est vraiment encore, vous voyez, juste dans le côté, il y a de l'espoir, oui. Tout va bien. Donc, mes parents arrivent tant bien que mal pour garder mes trois enfants, qui avaient à l'époque quand même que 2 ans, 3 ans et 6 ans. Moi, j'avais 25 ans, hein, j'étais qu'une gamine, vous voyez. C'est vrai que les gens ont tendance des fois à l'oublier, mais on n'avait quand même que la force de notre âge. Et mon époux avait 31 ans. Et le protocole se fait, on me dit de rien prendre. Même mon père n'a pas l'autorisation de venir, donc j'y vais tout seul, vous voyez, un peu confiante, parce que je me dis, bon, ben, c'est vrai qu'ils savent ce qu'ils font, s'il est juste blessé, c'est moins grave, vous voyez, il est jeune, il va s'en sortir, tout va bien, tout va être... vous voyez, vous êtes un peu dans le déni, mais dans une motivation où c'est pas le pire, il est pas mort, vous voyez.
Oui.
Donc, moi, j'y crois, quoi, tout va bien, j'embrasse mes enfants, je dis à mon père que tout va bien aller, à ma mère... Ma sœur devait revenir aussi, donc on s'inquiète moins. Et là, je pars avec un de ses camarades de sa compagnie et donc deux de ses supérieurs. On prend 2 voitures, on arrive à Paris, à Val-de-Grâce. Et là, personne ne parle. La voiture, vous voyez, c'est d'un calme horrible. moi, j'essaye d'avoir des renseignements. Vous voyez, je garde une dynamique en me disant, bah, vous avez des nouvelles, comment il va qu'est-ce qu'il a eu, bah, vous voyez, tout ce qu'on peut tous se poser comme question, quoi. Où il était, on ne me répond pas. Arrivé à Val-de-Grâce, on descend. Je suis reçue dans un espèce de vaste couloir qui continue avec des chambres en enfilade. Et on arrive dans une chambre où il y a 5-6 personnes allongées avec des rideaux. Et quand j'arrive, bah, on les tire, vous voyez, donc vous apercevez des pieds, des machines. Et là, vous dites... Bon, alors moi, dans ma tête, ça a l'air horrible, mais je me dis, il n'est pas mort, il y a tellement de monde. Vous voyez, on ne m'aurait pas fait ce coup-là. C'est... Vous voyez, j'aurais eu plus peur d'une chambre austère, vous voyez, seule. Donc, je me sens en confiance, vous voyez, je rentre. Et là, je vois un homme allongé sur un lit, avec les machines, le ventre, vous voyez, tout ce truc horrible, intubé, je ne sais pas comment on dit, c'est ça. Avec tout l'appareillage, la lèvre abîmée, une dent cassée, des bleus sur le corps. Je ne reconnais même pas mon mari. Alors, ça fait à peine un mois et demi, vous voyez, qu'il est parti. Et un corps boursouflé. Si vous voulez, Nicolas était en compagnie de moi, donc quand même, il était très grand, brun, mince, très athlétique. Voyez, une silhouette très élancée.
Mais il parlait, là, il parlait au moins ?
Pas du tout. En fait, j'apprends que moi, je me viens près de lui pour essayer déjà de le reconnaître. Je ne le reconnais pas. Et son corps est boursouflé. On dirait qu'il fait au moins 100 kilos. Vous voyez, il n'est pas reconnaissable. Et là, c'est vrai que je m'excuse. Je dis, je suis désolée, ce n'est pas mon mari. Puis vous voyez, comme ils ont retiré les alliances, et je ne vois pas son corps. Il avait 2 tatouages, donc je ne m'aperçois pas encore de ses tatouages et tout. Donc je me dis, je suis désolée, c'est vrai que... Et je m'en vais. Et là, on me dit, non, il faut revenir, c'est votre mari, il est là. Et puis là, le monsieur me parle très, très froidement, mais comme si lui, il était au courant, vous voyez, comme si vous annonciez à quelqu'un quelque chose qu'il savait, mais qu'il ne veut pas comprendre. Et il me dit, mais votre mari, il est mort depuis, 3-4 jours, il est en mort cérébrale, il faut le débrancher, faut que vous nous signiez là-bas, en bas de la page. Et là, vous rentrez dans une folie.
Mais aussi froidement que ça, on ne vous prépare pas.
Aussi froidement. On ne me prépare pas et on me dit clairement de signer en bas de la page pour débrancher mon mari. Vous voyez, et alors que moi, je venais chercher... Donc, dans la foulée, je ne vous cache pas que vous êtes dans une inconscience. Pourtant, je suis quelqu'un de très consciente. Vous voyez, je n'ai pas peur de dire les choses. Je n'ai pas peur d'affronter la vie, la mort, l'accident et tout. Mais là, à ce moment-là, je suis complètement anéantie et déconnectée. Et là, je redis et je réitère, je suis désolée, toutes mes condoléances à la famille, ce n'est pas mon mari. Surtout que je l'avais vu en webcam il y a moins d'une 4 jours, vous voyez. Donc, j'avais cette personne vivante, dynamique. Et là, on me donne un homme qui n'est pas le bon. Vous voyez, qui n'est pas... Je ne sais pas si vous comprenez, en 4 jours, c'était impossible que ce soit lui, en fait. Et du coup, bah, je pars dans le couloir, pareil, pour repartir. En fait, je ne sais pas où je voulais repartir, mais je repartais, quoi. Et là, il y a une infirmière qui vient et on me pique, vous voyez. Et je me sens toute molle et on me ramène dans la chambre. Et on commence à m'expliquer qu'ils ont mort cérébrale, qu'il faut le débrancher, qu'ils n'ont rien pu faire. Et là, j'essaye tant bien que mal, je prends mon téléphone, j'appelle mes parents. Et mon premier mot, c'est de dire, papa, ils me disent que Nicolas, il est mort. Et là, mon père me dispute. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. C'était pas ce qu'on nous a dit, parce que tout le monde était dans le déni. Parce que, vous voyez, c'est pas ce qu'on nous a annoncé. Parce que déjà, je l'aurais affronté avec un peu ma famille. Vous voyez, on n'est pas idiots. Dans ces moments-là, c'est pas des choses que vous affrontez seuls, quoi. Mmh. Et donc, l'histoire commence déjà dès là vous voyez, vous vivez dans... en enfer. Vous êtes plongé dans un système et puis en plus qui est médical mais qui reste militaire. Donc très froid, très austère, très, il n'y a rien qui filtre. Vous êtes bloqué. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer le système, mais on est vraiment coupé du monde. Vous voyez, je ne peux même pas dire de partir dehors, souffler, appeler je ne sais pas qui. Donc c'est vrai que c'est limité. Je rappelle mes grands-parents parce que j'étais très proche et ils étaient très proches de moi aussi. Et mon grand-père étant aussi un ancien militaire, je lui raconte. Pareil, il me dit, mais en plus, tout le monde me prend pour une folle en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne peut pas être mort. Tu l'as eu il y a 4 jours, on t'a dit qu'il était blessé. Donc vous voyez, c'est vraiment quelques heures de on ne comprend plus rien, en étant très honnête. Et là, on vient avec des diagnostics médicaux, mais vraiment purement médicaux, où il faut vraiment être pointu, vous savez, dans les tests de Glasgow, tous ces systèmes. Moi, honnêtement, vous voyez, encore maintenant, c'est des choses qu'on ne comprend pas trop, quoi, si on n'est pas dans le milieu.
Bon, en tout cas, votre mari, malheureusement, est décédé. Et
c'est ça.
Je lis que vous allez vous battre 12 ans pour faire reconnaître officiellement comme quoi il est mort pour la France.
C'est là où est le plus grand drame, c'est même encore pire que ça, c'est que très vite, donc Nicolas va, vous voyez, on arrive dans la Valgrasse, donc on finit par le débrancher. Moi, je suis persuadée que je ne l'ai jamais fait, mais ils me disent que j'ai signé. Bon, après, peu importe, ça n'aurait rien à changer vu qu'il était réellement en mort cérébrale et décédé. Suite à ça, on me demande d'aller, je retourne à l'Épinal, je dois récupérer des affaires, je ramène une voyette pour la mise en bière. On ne veut plus me redonner le corps, parce qu'apparemment, il y a des autopsies et des choses. J'accepte. Et au moment de me ramener, son régiment ne veut pas me ramener. Donc, en plus, je n'ai même pas pu fermer le cercueil. C'est un de ses collègues qui a dû le faire pour moi. J'attends le cercueil de Nicolas, le temps d'arriver. Vous voyez, on était à Épinal quelques jours après. Scellé, bien sûr, vous voyez, comme ils font avec la procédure. On nous dit de ne pas paniquer, qu'il va y avoir une enquête, que tout va bien se passer. Vous voyez, ils nous vendent quand même un truc, vous ne serez jamais seul, on est une famille, etc. Il est reconnu mort pour la France, etc. etc. Mais par contre, comme la commission n'est pas passée, on ne peut pas l'enterrer comme un soldat mort pour la France. Parce qu'il faut attendre l'enquête.
D'accord.
Donc, on se retrouve avec un corps qui va être incinéré, alors qu'on n'est pas du tout dans cette option de philosophie de vie. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On arrive là. Donc, il y a une première, on va dire, fausse cérémonie où ils vont incinérer le corps de Nicolas et en me disant, attendez. Et en plus, comme il venait de commencer seulement l'opération, tous les militaires qui étaient avec lui étaient encore au Liban. Et pour le moral des troupes, ils nous disent, il ne faut pas trop que ça s'ébruite, on racontera qu'il y a eu ci ou là. Bon, après, nous, on est dans la souffrance. Vous voyez ce qu'ils font, on n'est plus dedans, quoi. En plus, on est en 2009, on était en pleine élection entre M. Sarkozy et M. Hollande. À l'époque, on sait que les soldats, ça ne mourait pas. Hein. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Il n'y avait pas de plan hommage, il n'y avait pas, vous voyez, toute cette dynamique qu'on a aujourd'hui. On a connu après avec Ousbine et puis après avec les attentats. Donc, on est vraiment en plus caché, isolé, coupé des médias et autres. Donc, vous voyez, tout se passe. Nicolas donc, décède en février, le 21 février officiellement. Il sera enterré donc à la fin, il sera incinéré donc le 28. Et là, on nous dit, vous inquiétez pas, quand au mois de juillet, tout le monde arrivera, on fera un vrai enterrement avec les honneurs militaires, les autorités officielles et autres. On attend, tout le monde rentre. Moi, j'ai même pas un protocole pour me mettre en sécurité. Vous voyez, je vais quand même malheureusement dans le déni à l'arrivée de ses camarades qui rentrent en espérant le voir descendre du bus naïvement. Et même si j'en suis consciente, hein, vous voyez, mais je sais pas, j'avais besoin d'être sûre qu'il descendrait pas de ce bus, vous voyez, tellement que ça avait été violent et brutal. Rien. Je rentre chez moi, j'ai rien, j'ai deux urnes posées sur la table et même pas un mot. Rien. Non, mais ouais, c'est ça, je ne sais pas comment expliquer. Rien. Et là, quelques semaines après, j'ai quand même un appel donc, de son ancien chef de corps qui était là-bas sur place au Liban et qui me reçoit donc, dans son régiment en me disant ben, on va vous embaucher parce que c'est le titre, vous savez, qu'on a en tant que veuve de guerre quand votre mari décède, on vous embauche au titre de son décès, hein, tout simplement. Et moi, je lui explique que je venais de passer mon concours de police. C'est vrai que ma vie, elle était autre, mais que de toute façon, je n'ai pas le choix d'accepter, étant donné que j'ai trois enfants de 2 ans, 3 ans et 6 ans. Vous voyez, je me vois mal aller à l'école, qui va les garder, changer de vie. C'était
complètement.
C'est impossible. Donc, vous êtes, quoi qu'il en soit, pris au piège. Si vous voulez élever votre famille et avoir... vous êtes, je ne sais pas comment expliquer, mais vous êtes dans une spirale. Puis de toute façon, vous êtes un peu dans le côté mécanique. Donc, quelque part, vous êtes dans le mode survie. Donc, vous ne cherchez même plus à savoir ce qui est bon pour vous. Vous cherchez ce qui est bon déjà pour vos enfants et qu'est-ce qui sera le moins pire.
En tout cas,
je ne sais pas si c'est ce que je dis.
En tout
mais
cas,
vous voyez ce que je veux dire.
Oui, complètement. En tout cas, on va voir que vous allez continuer à vous battre. On va se retrouver après l'info, Sabrina, car on va faire une petite pause, car l'info arrive à grands pas sur Europe 1. Et puis, on va voir que vos mésaventures ne sont pas terminé, loin de là, puisque vous allez devoir affronter une seconde épreuve tout aussi désagréable. Mais ça, c'est après l'info. À tout de suite, Sabrina.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h04 et nous sommes avec Sabrina. Sabrina qui nous explique depuis le début de l'émission qu'elle s'est retrouvée à 25 ans veuve de guerre. Son mari, le caporal-chef de première classe Nicolas Verrier, est décédé à l'âge de 31 ans en 2009. Nicolas s'était engagé à 17 ans et demi volontairement pour défendre son pays car c'était pour lui une très noble cause et les valeurs de la citoyenneté l'animaient depuis le plus jeune âge. Et puis, dès ce plus jeune âge aussi, il avait rencontré Sabrina. De cette union ont été nés des trois enfants qui, au moment où Nicolas meurt en mission au Liban en 2009, il laisse trois enfants âgés de 2, 3 et 6 ans. Vous nous expliquez, Sabrina, avoir eu le plus grand mal déjà à accepter ce décès. Ensuite, vous allez vous battre pendant 12 ans pour faire reconnaître le décès de votre mari comme mort pour la France. J'ai du mal à comprendre pourquoi, en fait, ça n'est pas venu automatiquement alors qu'il se battait pour la France au Liban, en fait.
En fait, c'est ça qui est incompréhensible, c'est que vous tombez sur un... Alors, il vous explique, en gros, parce que même encore aujourd'hui, je n'ai pas eu le dossier médical intégral pour vous dire. Ça fait quand même 13 ans. On a des suppositions de mort, vous voyez, où il reste sur une imputabilité. Alors, c'est très statuaire et militaire. Hein. Donc, qu'il a une perte de chance de plus de 50%. Alors, quand on leur explique et on leur demande, personne ne nous explique plus, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ?
Perte de chance ?
De plus de 50%. Alors que, comme on leur explique, malheureusement, il est mort. Donc... même s'il avait eu 15% de chance de mourir, il est décédé.
Oui,
à moins que je suis idiote.
Bien sûr.
Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on vous parle, en gros, on essaye de se défausser, de dire qu'il a une perte de chance de plus de 50%, qu'il y a l'OPEX. Et là, en plus, malheureusement, on apprend que le médecin militaire aurait fait des erreurs médicales qui lui auraient causé, en plus, une chance de survie quasiment nulle.
D'accord.
Mais on vous dit à demi-mot. Voilà. Donc, suite à ça, par contre, ce qui est paradoxal, Olivier, c'est là où moi, ça me choque, c'est que par contre, statutairement, je suis très vite veuve de guerre. On me déclare donc veuve de guerre, mon mari mort pour la France, mes enfants pupilles de la nation, orphelin de guerre.
D'accord.
Par contre, on ne paye pas mes pensions, on n'est jamais invité, il n'a pas d'hommage, il n'est pas nommé à titre posthume, vous savez, comme, comme là, il y a eu récemment...
comme il y a eu récemment, oui, des jeunes tués au Mali.
Militaires,
oui.
Qui sont tués au Mali, ou
oui.
Même rien que l'accident d'avion, où ils sont sur une opération,
oui,
ils se rendent,
oui,
dedans, ce qui est normal et c'est tout à fait légitime, ils sont en mission, ils meurent pour la France sur des exercices.
Bien évidemment, à partir du moment où on est en mission en tant que militaire à l'étranger, j'ai du mal à comprendre...
Oui. Et puis nous, c'est dans notre ADN.
Autrement.
On a été élevés ainsi. Donc en plus, nous, c'est encore plus choquant parce que nous, c'est notre culture, vous voyez. Donc en plus, on ne comprend pas. Mais pourquoi il y a un espèce de... Alors, on nous donne, mais on ne nous donne rien. En plus, quand ben, je demande quand même des faits, parce qu'il y a quand même des choses... Il faut rentrer aussi dans le factuel, parce que vous vous retrouvez avec des pensions misérables. Parce que moi, mon mari, en plus, c'était caporal-chef. Donc normalement, j'ai le droit à une pension entière en tant que veuve de guerre de 800 euros. Donc vous allez rigoler, hein, parce que je fais pas un trou dans le budget de l'État hein, quand je demande. Sauf que j'y ai pas le droit, on me verse 425 euros par mois. Parce qu'ils estiment qu'il serait pas mort. On demande encore pourquoi, parce qu'il est mort pour la France, c'est tatoué, c'est marqué. Hein. Et alors, on sait toujours pas pourquoi. Donc vous voyez, là, on le débloque, on demande tous les ans poliment comment ça fait. Alors là, on nous a que oui, mais au moment du décès, il y a quelqu'un qui aurait coché la case maladie. Alors, maladie, on ne sait pas de quoi. Vu que ça a été reconnu, en plus, mort pour la France, imputable en service. Donc, on se dit, mais quoi vous nous parlez? Et en plus, ils ont un régime particulier. Vous savez, quand ils partent en opération extérieure, ils sont à 100% militaires. Et peu importe ce qui leur arrive sur le territoire, que ce soit une maladie, un accident ou un fait extérieur, vous voyez, comme un attentat oui. ou autre, ils sont 100% pris en charge. C'est un statut particulier. Parce que c'est comme pour quand ils sont payés, ils ne sont pas payés plus ou moins, ils travaillent du lundi au dimanche. C'est comme ça, c'est dans leur statut, en fait, tout simplement. Contrairement à un civil où qui aurait un barème, une horaire et une charte de travail. Eux, c'est du 100%, ils sont militaires. Donc en plus, quand on leur pose, vous voyez, les questions sur pointillés, on leur dit, mais pourquoi on n'a pas ça? Donc ils estiment en gros que vous devez vous estimer heureuse d'avoir 485 euros par mois. Vos enfants touchent 80 euros par mois, soit 10% de la pension qu'ils auraient dû percevoir. Et le pire, c'est que là, tous les assurances-vie sont bloquées. Et on nous dit, bah oui, mais du coup, ils avaient coché la case maladie, donc vous ne toucherez rien en tant que veuve de guerre. Donc vous voyez, et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, comme on m'a embauchée donc, en tant que ministère des armées, civile des armées, eh ben, j'ai un omerta. Je dois me taire. Parce qu'arrivée dans mon travail, on me menace de me perdre mon emploi. Je rappelle que j'ai 25 ans. Vous voyez, je viens de perdre mon mari, j'ai 3 enfants. Oui, oui. Ben, j'ai peur, quoi, comme tout le monde. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis nous, ce n'est pas dans nos cultures. On doit se taire, on n'a jamais appris, vous voyez, à prendre
les gages. Oui, il y a un devoir de réserve. Enfin, vous avez été élevé comme ça.
Puis de respect, d'être respecté, souvent, beaucoup ne comprennent pas. Ils m'ont dit, ah oui, mais moi, j'aurais porté plainte, j'aurais été faire ci. Oui, mais je dis déjà, nous, c'est pas dans nos cultures, on est très respectueux. Et après, on l'apprend. Mais vous voyez, j'ai une 13 ans. Et justement, et c'est parce qu'ils ont été trop loin que dans l'aggravation des faits, que bah, aujourd'hui, même si bah, ils sont pas contents, c'est comme ça, parce qu'il y a des choses graves, et c'est surtout que je suis pas la seule. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, que ce soit à des veuves de guerre ou à des soldats blessés, c'est inadmissible. On ne fait pas ça parce que le monde réel, voyez, le public serait ce qu'on vit au quotidien. Tout le monde serait un peu des fois écœuré de certains comportements parce qu'il y a des gens exceptionnels, mais il reste quand même des gens horribles qu'on peut rencontrer et qui peuvent vous détruire une vie.
Mais comme je le dis souvent, il y en a dans tous les secteurs. On va aborder...
Donc,
allez-y, dites-moi.
Oui. Non, mais donc j'allais vous dire, donc, suite à ça, c'est vrai que dans mon malheur, j'ai la chance... d'être à Verdun. Alors, vous allez, tout le monde va sourire, hein, parce que c'est la capitale de la paix, mais ça, où il y a plus de morts que d'habitants. Et je deviens la première veuve de guerre depuis 1945 d'un soldat mort pour la France, au Liban. Une belle image d'Épinal. Vous voyez, ça fait exprès, je rentre dans la mémoire de l'histoire de France. Donc, en plus, Nicolas décédera officiellement le 17 février, en mort cérébrale. Et on apprendra plus tard que bah, c'est la veille de la bataille de Verdun. Et c'est surtout qu'ils nous l'ont ramené, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit déclaré réellement mort au Liban, mais plus à Paris, à Val-de-Grâce, pour ne pas me payer, en fait, une prime du Liban, en tant que casque bleu ONU. Donc là, vous voyez, vous apprenez l'horreur, en fait, au fur et à mesure des années. Et vous avez mal. Donc moi, c'est vrai que j'ai cette particularité d'être invitée à Verdun. Je rencontre M. Hollande, parce qu'entre-temps, bah, les années passent, hein, 2-3 ans. On ne veut pas me faire pour que je le rencontre, parce que le but du jeu, ce n'est pas que ça se sache. Vous voyez, c'est ça. Et c'est vrai que je lui avais écrit une lettre par jour. Donc à l'époque, on devait déjà à la 265e lettre que je lui écrivais la même lettre tous les jours. De me prendre en compte et de prendre en compte bah, ce qu'on m'avait promis, c'est-à-dire que mon mari passe au titre... au grade posthume, comme tous les soldats morts pour la France, qu'il ait la médaille à titre posthume. Alors, ça paraît rien, ça nous apporte rien, mais vous voyez, c'est hyper important pour lui en tant qu'homme
bien
et
sûr.
Dans sa carrière militaire.
Et puis pour ses parents, pour les siens, pour vous, pour ses enfants.
Pour mes enfants, vous voyez, dans l'honneur qu'il a donné, il a quand même en 13 ans et demi de carrière, il est quand même parti plus de 10 fois en opération extérieure sur le feu des armes. Vous voyez, il a été enfermé dans des bunkers quand j'étais enceinte de Quentin. Le pauvre, il a même pas su qu'il était papa. Moi, j'accouchais en prématuré tellement que j'étais contrariée. Il a su que 4 jours après que j'avais accouché, que vous voyez, on vit des vies quand même très complexes de souffrance et de privation. Je pense que quand malheureusement il arrive à une blessure ou à un décès, normalement, on doit être à la hauteur.
Normalement, oui, mais là, visiblement, en tout cas, le gouvernement et l'État n'ont pas du tout été à la hauteur. Vous avez fini par obtenir gain de cause ?
Alors, c'est vrai qu'on va raccourcir, mais bon, pour vous dire, c'est vrai que donc, je rencontre M. Hollande, qui là est un peu paniqué, parce qu'il y a les médias et tout, donc il me dit, il n'y a pas de souci, Mme Berry, on va vous prendre en compte, tout va être réglé, il me fait rencontrer M. Le Drian. Il y a une espèce de... d'étincelle, parce que vous voyez, c'est là qu'il va commencer la première impulsion. Et suite à ça, je rentre moi dans mon régiment et dans mon service. Et quelques mois après, je me fais agresser et on me demande clairement de partir. Et on me mène une vie d'enfer. Et moi, j'essaye, vous voyez, de le faire remonter au commandement, un signalement et autres. Donc, toute l'affaire est étouffée. Jusqu'en février 2017, où là, on me dit clairement de partir à Nancy, en fait, ça fait presque une heure de route pour rien parce qu'ils vont me protéger, tout ça. Le temps que, vous voyez, il y a une sanction disciplinaire sur ceux qui seront validés et autres. Bon, j'arrive
à
Nancy.
Vous êtes agressée par des collègues ?
C'est pas des collègues, carrément. Un homme qui n'était pas au sein du régiment, mais qui venait d'arriver, qui était en plus alcoolisé du matin au soir, à qui on a donné un ordre de me faire taire. Sauf que lui, ordre de faire taire, ça a été de mettre une droite et me laisser pour morte dans le bureau. Donc, suite à ça, vous voyez, après, ça s'est passé très vite. Hein. Les pompiers arrivent. Moi, on m'a mis en accident de travail, reconnu, hein, jusqu'au mois d'août, le temps de mon placement et de mon départ. Bien sûr, j'ai jamais pu remettre un pied au sein de mon service. On a été dire que j'étais partie parce que j'étais tombée dans les escaliers. Alors, je vois pas le rapport, mais bon, voilà. Et que suite à ça, on m'avait donné un autre poste sur Nancy. Donc, ça a été beaucoup d'interrogations parce que j'étais quand même connue et très appréciée dans mon travail et dans mon régiment. Hein. Donc, ils n'ont tous pas compris pourquoi j'étais partie, mais tout le monde ne s'était pas posé la question en se disant peut-être c'est vrai qu'elle a eu envie de changer, c'est dur de porter cette image de veuve. Vous voyez, donc ça n'a pas choqué beaucoup de monde. Puis, vous voyez, comme on est des gens pudiques, on ne parle pas de ce qu'on vit réellement dans la souffrance et tout ça. Et le pire, c'est que nous, on doit faire, je pense, comme dans tous les métiers, un rapport circonstancié qui rappelle les faits. Moi, ça fait depuis 2017, j'attends toujours mon rapport des faits de cette agression. Ça n'existe pas.
D'accord. Donc, on va se concentrer sur la seconde partie de votre histoire parce qu'il nous reste un quart d'heure.
Oui, je me dépêche. Donc, en fait, c'est pour ça. Donc, la priorité, moi, c'était surtout d'enterrer aussi Nicolas parce que je me retrouvais avec ces deux fameuses urnes et jamais eu de sépulture, jamais eu de corps et autres. Et donc, on accélère à chaque fois dans les représentations. Vous voyez, on demandait pas la lune en plus, hein, le paiement de nos pensions et que Nicolas ait un hommage militaire comme il le mérite. Entre-temps, moi, je m'investis énormément dans toutes les associations patriotiques. Je mets à l'honneur les veuves, les orphelins, les blessés. On fait même un film avec Cheyenne Caron, donc qui met à l'honneur donc les épouses de militaires en 2000, à l'année du Covid. Malheureusement, il est sorti là, mais ça a été un super long métrage qui a fait une ultime ovation dans tous les milieux, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas... Vous voyez, il y a certains milieux qui nous rejettent, alors que là, en fait, on a vraiment été félicités par tous. Ça s'appelle « Le soleil reviendra ». On met justement nos vies atypiques à l'honneur. Et pour une fois, vous voyez, un général qui parlait très bien, M. Delaunay, qui disait « Elle aussi, elle les méritait ». Parce que toutes ces médailles et ces carrières, on est un peu la base arrière et aussi un peu le fruit de cette réussite. Qu'un militaire qui va bien et qui réussit sa carrière, c'est aussi grâce à son épouse qui gère tout en France, quoi, quelque part.
Oui.
Donc, vous voyez, en plus, je ne reste pas inactive, je garde aucune rancœur et aucune rancune parce que je me dis que quelque part, ce n'est pas deux, trois éléments mauvais qui vont faire et entacher mon institution et mes valeurs et pour lesquelles aussi mon mari s'est engagé et mes enfants et surtout mes grands-parents et tout, parce que c'est vrai que c'est long, mais vous verrez, j'ai une grande lignée. De sacrifices morts pour la France et de blessés de guerre. Donc, c'est qu'on est dans cette culture-là de France pour la citoyenneté. Et je continue mon combat, mais toujours dans les valeurs, mais par contre, en étant toujours très tranchante dans le sens où je veux des réponses. Les années passent, ça fait quand même 7 ans, 10 ans, 13 ans, et ben après, on n'en peut plus, vous voyez. Et là, quand M. Hollande parle, donc M. Macron prend sa place, gagne les élections, et ben, on n'en peut plus, parce qu'on nous dit, ça va encore changer d'un président à un autre, et on va faire ça combien de temps, vous voyez.
Oui,
le gouvernement change, les ministres changent, c'est une catastrophe à chaque fois, on nous promet des promesses, et il n'y a jamais rien. Et c'est vrai que suite à une rencontre, parce que là, j'étais la première à participer donc justement au monument OPEX, la première pierre qui a lieu au parc André Citroën, donc je la pose avec M. Hollande, et donc j'ai quand même la présentation avec M. Macron, donc le lien se fait très vite. Et entre-temps, c'est vrai, je vais quand même à l'Assemblée nationale, je me bats au niveau associatif pour que le statut des veuves de guerre change, parce qu'il faut savoir que nous, il n'avait même pas bougé depuis 1945. Même au niveau statutaire, quand vous rentrez, bah là, comme moi, une embauche au sein de votre régiment, vous êtes embauché en tant que 00, donc le plus bas des grades, même que vous soyez diplômé ou pas. Et ça, bah, je me suis quand même battue. Donc depuis 2010, maintenant, les épouses peuvent être embauchées au titre de leur diplôme. C'est quand même un grand pas pour nous, parce que vous voyez, on n'est plus ces femmes non plus d'antan. Et on avait une double en plus pénalité suite à ça. D'accord. Donc vous voyez, je fais quand même des belles choses, mais personne ne le dit, hein. Personne ne va dire que, vous voyez, c'est moi qui ai monté, que t'es au charbon, j'ai pris des humiliations en me disant, mais Madame Verrier, vous êtes qu'une femme, vous êtes qu'une veuve, vous n'avez pas le droit à la parole. Limite, c'était l'image de la veuve corse voilée et vous devez vous taire, quoi. Et comme je leur ai toujours expliqué, moi, qu'on me donne le manuel de la veuve de guerre parfaite, parce que jusque-là, personne ne l'a écrit et j'aimerais bien l'avoir, parce que c'est quand même très compliqué. Et donc, de fil en aiguille, on arrive, c'est qu'on a quand même une promesse. On passe dans Paris Match, alors on ne sait pas, hein, avec suite à un entretien avec monsieur et madame Macron, et il nous promet qu'on aura au moins la sépulture, comme il l'avait été promis par les présidents précédents, pour que Nicolas soit enterré avec les honneurs. Donc, on a un papier qu'il est reçu, où comment il pourrait dire, bah, je vous l'enverrai un jour, juste pour sourire, à demi-mot, ils reconnaissent donc qu'ils ont eu tort, que j'ai pas pu l'enterrer vu que c'était de leur droit, étant donné que j'avais pas eu la mention et tous les papiers avaient traîné, on n'avait pas pu faire ce fameux tournage, et qu'il allait être fait donc 10 ans après. Que nous, on n'a jamais eu lieu, même un lieu, vous voyez, où on pouvait se recueillir. Ça a été horrible.
Enfin, vous avez quand même réussi à obtenir ça au bout de 12 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, 12 ans. Et donc, il va être enterré à Épinal en sépulture militaire. Donc, en plus, il devient le premier soldat mort pour la France à rentrer en sépulture avec ses aïeux. Donc, une valeur très importante pour nous. Parce que quelque part, on rouvre un droit, vous voyez, à un lien armée-nation et surtout avec nos anciens soldats morts pour la France de 14-18, 39-45, Indochine-Algérie. Et maintenant, nos OPEX. Donc, il y a une belle continuité. Vous voyez, il a une belle image en lui qui crée pour l'avenir de la France, en fait, quelque part.
C'est quand même incroyable de vous entendre nous raconter tout ça, parce que au final, on s'aperçoit que pour des jeunes soldats comme ça, ça n'est pas évident d'obtenir ne serait-ce que ce statut de mort pour la France, alors que leur métier est militaire. Donc ça me paraît tellement...
Non, puis ce qui fait mal, Olivier, si vous me permettez, je ne voudrais pas vous couper, c'est qu'en plus, on n'a pas la même équité pour tous. Parce que selon où vous mourrez, alors c'est cruel, hein, mais si vous allez mourir au Mali ou au Liban, bah, vous n'aurez pas le même traitement de faveur, parce que ce n'est pas médiatisé, vous n'auriez pas la même chose selon votre grade, si vous êtes sous-officier, militaire du rang ou officier. C'est quand même pas normal. Parce que quand face à la mort, on est tous pareils. Je veux dire, que ce soit le militaire du rang, le triste soldat ou le général 3 étoiles qui meurt, celui qui laisse, il laissera une épouse et un enfant qui auront la même souffrance. Et là, c'est là où c'est plus normal. Qu'on n'ait pas la même chose et que la même équité ne soit pas donnée à tous les soldats morts pour la France, dans le sens où ils sont morts pour la France. Peu importe le grade, le statut, le lieu, il est mort pour la France.
En tout cas, Sabrina, je vous félicite quand même. Vous êtes battu pour obtenir cela, ne serait-ce que pour vos enfants. Et puis, il y a de nombreux SMS qui, bien évidemment, soulignent votre courage, mais s'interrogent sur ce statut qui paraît évident à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui, malheureusement, c'est souligné, fait que ces jeunes militaires ne sont pas tous égaux devant la mort. Et puis, géographiquement...
Vous dire, Olivier, l'année dernière, on a fait une marche pour honorer quand même l'enterrement de Nicolas au bout de ses fameux 13 ans. On a fait Épinal-Paris. On a fait 597 kilomètres. Il y avait donc moi, mes enfants, une autre veuve en service qui se battaient justement parce que les veuves en service ont aussi d'autres problèmes. Vous allez voir, c'est vrai que nous, on ne parle jamais de nous, mais en fait, personne ne s'intéresse réellement à nous, quoi. Et donc, on fait cette fameuse marche. Et là, on apprend que les 597 morts qui sont au monument rupestre, il y en a encore 200 qui sont en attente. C'est-à-dire que ces familles-là, c'est des gens qui sont encore en attente, qui sont déjà sur peut-être une génération ou deux, qui ne sont toujours pas reconnus morts pour la France, alors qu'ils sont morts en opération extérieure.
Merci en tout cas Sabrina pour votre
Merci
témoignage
beaucoup de votre attention,
sur l'antenne d'Europe 1. Et puis vous ne raccrochez pas, je crois que Florian veut vous parler. Merci en tout cas et puis courage à vous pour la suite des événements. Mais je crois qu'on va se reparler dans quelques jours pour un autre problème.
Sincèrement, c'est ce que j'allais dire, il faut garder une note d'espoir parce que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui j'ai quand même trois enfants qui sont merveilleux, qui ont aujourd'hui 19 ans, 17 ans et 16 ans, qui réussissent, qui n'ont jamais eu d'échec scolaire, qui se battent, qui ont une construction de citoyenneté que là, pendant le Covid, ils sont démenés même pour l'environnement, pour nous, en tant qu'êtres humains, vous voyez, dans notre ADN, de tout ce qu'on peut vivre, malgré qu'ils ont eu cette souffrance et cette non-reconnaissance, ils sont aujourd'hui construits, ils se battent et ils ont les valeurs de leur papa. Donc, quelque part, nous, on a réussi notre pari en tant que parents.
Exactement.
C'est la plus belle des récompenses.
Très bien. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci beaucoup, Olivier.
Et puis, embrassez-les bien pour nous.
Merci à tous pour l'écoute.
Au revoir.